Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nature sauvage et espace. Au programme, le retour d'un cervidé et la tuque en train. Bonne écoute!
Le Wapiti, le retour d'un cervidé, un texte de Simon Diotte, paru en automne 2022, numéro 57, dans le magazine Nature sauvage. Présent en nombre indéterminé en Nouvelle-France lors de la colonisation, le Wapiti, le deuxième plus grand cervidé au pays après l'orignal, a disparu de la carte du Québec au 19e siècle. Voilà maintenant qu'il refait surface dans la belle province. Portrait de ce majestueux ongulé. En 2013, Sébastien Jacques, un chasseur de la région du Témiscamingue, a la surprise de sa vie. Sur son terrain de chasse, ses caméras enregistrent les images d'un drôle de mammifère. Son pelage est d'un brun rougeâtre, son arrière-train est plutôt blanchâtre, sa tête est brun foncé et sa taille est à mi-chemin entre celle d'un cerf de Virginie et celle d'un orignal. « Je ne savais vraiment pas de quelle bête il s'agissait », se rappelle-t-il. Après quelques recherches, il constate que l'animal qui a pavané devant ses lentilles est un wapiti femelle. Et il n'est pas le seul propriétaire terrien à avoir reçu la visite de ce cervidé. Au fil des dernières années, plusieurs chasseurs du coin ont capté des images de wapiti par le biais de caméras de surveillance dispersées en forêt. Mais je ne connais pas encore une seule personne qui en a vu un en chair et en os, précise cet agriculteur. Petite histoire d'un grand cervidé. Sébastien Jacques et ses copains chasseurs n'ont pas la berlue. Des wapitis se promènent bel et bien dans les forêts québécoises du Témiscamingue et de l'Outaouais. Ces cervidés proviennent sans aucun doute de l'Ontario, province qui a procédé à un ambitieux programme de réintroduction au tournant du siècle. Au Québec, la présence de Cervus canadiensis demeure anecdotique. Néanmoins, celui-ci se trouve à revenir en territoire connu. Le terme « wapiti » signifie « croupe blanche » en langue Shawnee. L'animal était présent à l'état sauvage dans l'est de l'Amérique du Nord à l'époque de la Nouvelle-France, mais son abondance d'alors reste une question en suspens. Daniel Fortin, ethnologue et naturaliste, évoque dans son article « Au-delà du Codex canadensis, une histoire naturelle à dévoiler », publié dans la revue Cap aux Diamants, que le wapiti était possiblement le cervidé le plus présent dans la vallée du Saint-Laurent et autour des Grands Lacs au début du XVIIe siècle. Les descriptions du père Louis Nicolas, auteur du Codex canadensis, et de Samuel de Champlain vont dans ce sens. Notons qu'à l'époque de la colonisation française, le wapiti était baptisé « cerf », en référence à sa parenté étroite avec le cerf rouge vivant en Europe, Cervus elaphus. Tandis que le cerf de Virginie était appelé chevreuil, nom qui persiste encore de nos jours en référence au chevreuil européen du genre Capreolus. Au XVIe siècle, le wapiti occupait presque toute l'Amérique du Nord, des contrées enneigées jusqu'au nord du Mexique, des plaines jusqu'aux montagnes escarpées. Une étude de 1917 estimait sa population à 10 millions d'individus avant l'arrivée des Européens. C'était l'ongulé le plus abondant en Amérique du Nord. Trois facteurs auraient engendré son déclin spectaculaire. La perte d'habitat en raison de la pression agricole, la compétition pour le pâturage avec les animaux d'élevage et la chasse excessive. Ce cervidé peu farouche étant une proie facile pour les carnivores dotés d'armes à feu. Résultat, il disparaît complètement du Québec au début du 19e siècle. Quelques dizaines d'années plus tard, il est à son tour éradiqué de l'Ontario. Les derniers spécimens y auraient été observés à la tête de la rivière des Outaouais et de tout le territoire à l'est du Mississippi. Au cours des décennies suivantes, la population subit une décroissance importante sur tout le continent. Vers 1900, elle tombe à moins de 100 000 individus. La création de parcs nationaux canadiens et états-uniens où ils sont protégés empêchera leur extinction totale. Depuis, de nombreuses tentatives de réintroduction ont été réalisées dans l'est du continent. En Ontario, les efforts de repopulation ne datent pas d'hier. Un premier a lieu en 1897, démontrant l'intérêt envers cette espèce dont la chair est délicieuse. D'autres suivront et réussiront, l'animal ayant peu de peine à prendre pied dans son habitat original. Les documents historiques indiquent qu'au début des années 1950, son rétablissement est sur la bonne voie dans cette province. Cependant, tout bascule dans les années suivantes lorsqu'on détecte la présence d'un parasite, la grande douve américaine, Phacioloides magna, chez quelques wapitis en enclos. Dans le but de freiner cette éclosion qui, croyait-on, pourrait s'étendre aux autres espèces de cervidés, le gouvernement ontarien lance un programme d'extermination de masse de tous les wapitis sur son territoire. Le massacre se termine au début des années 1980 sous la pression des chasseurs, car des études détermineront l'absence du parasite chez les wapitis sauvages abattus, mais le mal est fait. Retour à la case départ en ce qui concerne le rétablissement du wapiti. Les autorités ontariennes effectuent plusieurs réintroductions en 1998 et 2001 à partir de 443 wapitis capturés dans le parc national Elk Island, en Alberta. Les sabots des wapitis foulent à nouveau le sol ontarien, si bien que la population est actuellement grossièrement évaluée quelque part entre 370 et 910 têtes. Une chasse restreinte a même été autorisée en 2011 dans la harde de Bancroft North Hastings en vue de réduire les conflits de cohabitation avec les agriculteurs. Vous écoutez « Le wapiti, le retour d'un cervidé », un texte de Simon Diotte paru en automne 2022, numéro 57, dans le magazine Nature sauvage. Mode de vie. Le mode de vie du wapiti s'apparente à celui des autres grands cervidés, quoique sa socialité ressemble davantage à celle du caribou qu'à celle de l'orignal. Le wapiti apprécie la vie de groupe, comme les touristes l'observent souvent dans les parcs nationaux Banff et Jasper, où des troupeaux se rassemblent à proximité des routes. Seuls les mâles préfèrent la solitude pendant la saison estivale, bien que de petits attroupements de mâles soient possibles. À la mi-septembre, au moment de la période du rut, les wapitis deviennent plus agressifs. Les mâles rejoignent les femelles et se battent entre eux, panache contre panache, afin d'asseoir leur domination. Durant cette phase, les mâles ne s'alimentent pas, ce qui les affaiblit et les rend vulnérables. Plusieurs meurent d'épuisement pendant la disette hivernale, les wapitis étant moins bien adaptés à la neige que les orignaux. Dès que le beau temps revient, les mâles quittent les femelles jusqu'à la prochaine saison de rut. Après l'accouplement, les femelles entrent en gestation pour presque 9 mois. Les naissances ont lieu en mai et juin, période où la nourriture est abondante. Les biches ont rarement plus d'un bébé à la fois. Lors des premiers jours, elles cachent leur faim dans l'herbe et les lèchent entièrement, ce qui évite qu'ils dégagent des odeurs attirant les prédateurs. Les mères ne les visitent que quelques fois par jour. Quand les petits ont la capacité de courir, ils se joignent au troupeau. Chassés par les humains pour leur viande et leur panache, ces ongulés sont également la proie des ours et des loups, ainsi que des cougars dans l'ouest du continent. Ils sont très vulnérables aux accidents de la route, en plus d'être fréquemment happés par des trains. Avenir du wapiti au Québec. Les wapitis ontariens traversent la rivière des Outaouais et viennent gambader sur le territoire québécois, d'où leur présence attestée par plusieurs chasseurs. Impossible que ce soit des wapitis d'élevage, car ceux-ci sont aisément identifiables par des étiquettes aux oreilles. Et lorsque des wapitis d'élevage s'échappent en milieu naturel, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, MFFP, s'occupe de les récupérer. Dans son plan de gestion, le gouvernement ontarien considère que le retour du wapiti apporte son lot de bénéfices en augmentant la biodiversité et en stimulant le tourisme par les activités d'observation faunique et de chasse, tout en servant de chasse de subsistance aux communautés autochtones. Au Québec, on voit les choses autrement, ce qui explique que la province n'envisage pas de réintroduction. En réponse à Nature sauvage, le ministère explique ses réticences, conflits possibles entre l'espèce et les humains, notamment accidents routiers, dommages à la propriété et aux cultures, et compétition potentielle avec les autres espèces sauvages déjà présentes, comme le cerf et l'orignal. Le MFFP mentionne aussi les risques sanitaires, le déplacement artificiel de cervidés ayant provoqué, dans le passé, la propagation de maladies. Il favorise plutôt, à travers ses plans de gestion, le cerf de Virginie et l'orignal, deux espèces très populaires auprès des chasseurs. Par conséquent, les wapitis resteront vraisemblablement fort peu nombreux dans nos forêts québécoises ces prochaines décennies. La reconquête complète de leur ancien territoire devra attendre. Une histoire de bois. Le wapiti est le plus volubile et bruyant des cervidés d'Amérique du Nord. Biches et faims communiquent entre eux en émettant cris, sifflements et miaulements. En période de rut, le brame du mâle ressemble à des rugissements aigus et métalliques et avise de sa présence les femelles ainsi que les autres mâles de la forêt avec lesquels il entrera en compétition. Seul le mâle porte un panache. À l'âge de 1 an, le jeune mâle est appelé daguet, en référence à ces bois qui ne sont alors formés que d'une tige ou d'agues. Quand l'animal a 2 ans, les bois se parent généralement chacun de 3 ou 4 andouillés, ces excroissances en forme de corne poussant sur la tige principale. Lorsque la bête a 3 ans, le nombre d'andouillés grimpe souvent jusqu'à 6 par tige. La quantité d'andouillés pouvant varier en fonction du niveau de nutrition, il est malaisé d'en compter simplement le nombre afin d'estimer l'âge d'un individu. À maturité, le panache peut atteindre 1,2 mètre de longueur et peser jusqu'à 22 kilos. Les bois tombent au printemps, mais se remettent aussitôt à croître. Fiche signalétique. Wapiti, Cervus elaphus canadensis ou Cervus canadensis, elk. Classification. Mammifère de l'ordre des artiodactyles et de la famille des cervidés. Caractéristiques du pelage. Beige à roux en été, brunâtre à fauve en hiver, croupe et queue blanchâtre. Chez le mâle adulte, poils du cou plus longs que ceux du corps. Chez les fans, pelage roux tacheté de points blancs. Longueur totale de 200 à 260 cm. Hauteur au garrot, mâle de 130 à 155 cm, femelle de 127 à 154 cm. Poids, mâle de 178 à 500 kg, femelle de 160 à 360 kg, nouveau-né de 7 à 21 kg. Maturité sexuelle, entre 16 et 28 mois. Plusieurs jeunes mâles ne s'accouplant que vers 4 ou 5 ans en raison de l'interférence des mâles plus âgés. Nombre de petits, généralement 1 par gestation. Longévité, de 10 à 13 ans jusqu'à 25 ans en captivité. C'était Le Wapiti, le retour d'un cervidé, un texte de Simon Diot, paru en automne 2022, numéro 57, dans le magazine Nature Sauvage.
La tuque en train des neiges. Un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28, numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace. Vous rêvez de prendre un train comme le faisaient jadis les skieurs qui sillonnaient les Laurentides? On a testé un plan pour vous. Voyager en train pour aller passer un week-end des neiges dans une ville dont le nom est fait pour l'hiver. Ça y est, on est parti, pour vrai. Voilà ce que je me dis quand le train qui m'amène à la tuque s'arrache enfin à l'île de Montréal en survolant la rivière des Prairies. On est vendredi, il est 10h du matin et on est à bord depuis 8h15. Parti en retard de la gare centrale, mon train des neiges a fait un long détour par le sud-ouest et beaucoup de surplace avant d'échapper à la métropole. Mais peu importe, maintenant qu'on file à travers les champs, la magie opère. Le train siffle, les arpents de neige défilent, je suis transporté dans l'inconnu. Le train nous fait voyager en coulisses. Il court la campagne, perce la forêt, fend les villages, qu'il nous fait voir de l'intérieur. Mettons que Saint-Tite a l'air encore plus western vu du chemin de fer. Le prix à payer, c'est la lenteur. Quand ça roule, mais quand on s'arrête. C'est surtout vrai à Hervé Jonction, l'escale où notre convoi doit se diviser en deux. Une moitié est en route vers le Saguenay, l'autre va m'amener à la tuque avant de rallier Sainte-Terre en Abitibi. À bord, Lucie, notre hôtesse du rail, entretient la bonne humeur en animant son wagon comme Chantal Lamarre le fait avec une émission de télé. Les yeux dans ma fenêtre, je regarde passer les minutes. Quand on repart, mon train des neiges est réduit au minimum. Une locomotive, un fourgon à bagages et un wagon bien rempli. Dehors, on est dans les conifères et les collines enneigées jusqu'aux oreilles. À la tuque avec pas de char. Quand on arrive à la tuque vers 14h, je ziote l'une des attractions qui m'a donné l'idée de ce voyage de plein air par le chemin de fer. Les pentes de la station de ski locale qui surplombe la ville, à un jet de pierre de la gare. Parfait pour un voyageur en train sur le point de devenir un voyageur à pied. je remarque qu'il y a un poste de taxi juste à côté de la gare. Mais la Villa du Charme, mon gîte pour le week-end, se trouve à portée d'un marcheur qui trimballe son sac de voyage et sa gaine à ski. L'après-midi est avancé quand je finis de m'installer, mais ici on peut encore profiter de l'hiver à cette heure-là. La preuve, j'ai un rendez-vous randonné avec Claude Philibert, le dynamique président du tout aussi dynamique club des Trois Raquettes. Au fil des années, ce club a tricoté au bord de la Tuque un très vaste réseau de sentiers accessibles en ville à partir de la station de ski alpin. En raquette, je suis mon guide sur un sentier qui gravit la montagne de ski. Très vite, on perd de vue la civilisation. C'est la particularité ici. Même proche de la ville, on est plongé en forêt, explique Claude Philibert alors qu'on atteint notre modeste objectif de fin d'après-midi, le Camp Bleu. C'est une jolie cabane en bois rond, parfaite pour casser la croûte. Mais mon guide me sert une autre gâterie. Un belvédère naturel qu'on rallie juste à temps pour voir le soleil se coucher sur la ville, qu'on peut voir au pied de la montagne. Belle façon de me rappeler pourquoi je suis venu à la Tuque en train plutôt qu'en auto. Vous écoutez « La Tuque en train des neiges », un texte de Barclay Fortin, paru dans le volume 28, numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace. Du ski pour tous les goûts. Samedi matin, mes skis et moi sommes invités à une avant-première. Ça se passe à 5 minutes en auto du centre-ville, dans un secteur où le club des Trois Raquettes travaille à convertir d'anciens chemins forestiers en sentiers de ski de fond hors piste. Je suis avec un groupe de skieurs locaux mené par M. Philibert. On monte dans un large chemin puis dans un joli sentier étroit. Cet été, on va construire un relais au bout de ce sentier, m'explique Claude Philibert quand on dépasse une pile de matériel qui dort sous la neige. L'ouverture officielle de ces sentiers de ski nordique est prévue pour l'hiver 2022-2023. Et ça promet. Si je me fie à cette virée qui nous a aussi menés à un superbe lac entouré de collines. Sur l'une d'elles, le club compte bientôt bâtir un autre refuge où on pourra passer la nuit. À suivre, donc. Grâce à la proximité de tout ici, mon samedi de glisse comporte une deuxième escale. Ski La Tuque, la station de ski alpin qui fait carrément partie de la ville. C'est doublement vrai puisque la montagne est exploitée par la municipalité. Résultat, à La Tuque, la glisse est abordable. Même les touristes ont droit à un deal dont le nom est inspiré de la route qui dessert la région, la passe 155. C'est une journée de ski pour toute la famille, maximum 4 personnes, offerte à $55 à tous ceux qui habitent à plus de 100 km. Modeste avec ses 166 mètres de dénivelé, la montagne m'en a quand même mis plein la vue et les skis. Et comme elle reste ouverte jusqu'à 20h le samedi, j'y ai croqué ma plus belle image mentale du week-end, la ville qui brille dans la nuit alors que je descends vers elle en pilotant mes planches. Mon problème du dimanche matin. Le club de ski de fond, La Tuque Rouge, est un peu trop loin pour que je m'y rende à pied. Ma solution, tenter d'y aller en ski via une piste cyclable qui commence pas loin et qui va jusqu'au club. Coup de chance, il neige fort sur La Tuque quand je me mets en route. Une courte marche plus tard, je glisse dans la poudreuse qui recouvre le fond durci de la piste cyclable. Quand j'arrive au club, son président, Yves Greffard, peste un brin contre cette bordée qui a enseveli ses pistes. « C'était tellement beau hier », lance-t-il à un autre bénévole qui s'en va damer les sentiers de vélo-neige qui côtoient les pistes de ski. Ces pistes se déploient au bord du Saint-Maurice. Entre le plateau où se trouve le chalet d'accueil et la rivière, il y a une quarantaine de mètres de dénivelé qui ajoute quelques bonnes côtes au réseau. Fendant la nouvelle neige, mon guide m'amène au bord de la rivière, puis au relais du club par de larges corridors, classiques et skate. La majorité des pistes du club sont dans ce style hybride permettant de skier en ornière ou d'exercer son pas de patin, mais il y a aussi quelques sentiers plus étroits réservés aux classiques. Près du relais, la grosse dameuse du club nous dépasse en moulant des sillons parfaits et un impeccable couloir de pas de patin. Monsieur le Président est ravi que la visite voit ses sentiers à leur meilleur. Mais la vraie bonne nouvelle de la journée, c'est que l'horaire du train laisse aux voyageurs le temps de profiter de leur dimanche à la tuque. Mon départ de la gare est prévu pour 14h53. Mais t'es mieux d'appeler, on sait jamais avec le train, me dit Lynn, ma logeuse, pendant que je plie bagages. Finalement, mon voyage de retour dure plus longtemps que prévu. J'ai donc amplement le temps de constater que, plus au sud, la bordée qui a blanchi la tuque ce matin est tombée en pluie et en verglas. Juste pour ça, ça valait la peine d'essayer ce train des neiges. C'était « La tuque en train des neiges », un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28, numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.